Parmi les grandes figures que vous évoquez dans vos antimémoires, il y a Nehru, il y a Chou En Lai, il y a Mao Tse-Tung. À travers les souvenirs de Yénan, ceux de la longue marche, il y a une question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que cet effort presque désespéré, cet effort poursuivi contre le monde entier, est-ce qu'il a vraiment aujourd'hui une valeur universelle?
Lorsque je suis en Chine, j'ai le sentiment que psychologiquement, il y a des éléments qui ne sont pas les anciens éléments exotiques de la fameuse Chine des mandarins. Il y a des éléments qui ne peuvent être transposés nulle part. La révolution dite culturelle, car elle s'appelle en chinois révolution culturelle prolétarienne, et l'accent est sur prolétarien tout de même, a été extrêmement mal expliquée ici parce que, en règle générale, ceux qui ont vu n'ont pas été très instruits par ce qu'ils ont vu. Et ceux qui connaissaient la question pour avoir suivi le développement de la Chine, en France, sont extrêmement peu nombreux. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette manie d'employer toujours le mot culturel là-dedans? Il semble que la culture n'ait rien à y voir. C'est pourtant pour une raison excessivement forte. C'est que, sans aucun doute, dans l'esprit de Mao, l'essentiel est, il y a une individualisation en Chine qui est restée beaucoup trop forte. Nous ne pouvons faire la véritable épopée que dans une désindividualisation complète. Et j'appelle révolution culturelle ce qui consiste à détruire ce qui reste d'individus et ce qui, le cas échéant, avec n'importe quel révisionnisme, augmentera les caractères de l'individu. Mao dirait, il est faux de dire que si on donne des deux chevaux à tous les Chinois, révisionnisme, les Chinois deviendront pour autant plus proche des Russes et plus près de s'occuper de leur niveau de vie, etc. Pas du tout, dira-t-il, si on arrive à créer un état d'esprit dans la Chine entière, semblable à celui de l'armée, eh bien, en définitive, nous pouvons donner les deux chevaux sans danger, car nous pouvons donner des motocyclettes à tous nos soldats. On oublie trop ici que Mao a réussi d'une façon éclatante, les communes populaires, les obstacles étaient immenses, mais la réussite est éclatante. Les Chinois ne viennent pas d'un individualisme à l'occidental. Autrement dit, chaque fois que nous reprenons ce point de vue de Mao, nous avons tendance à nous dire, prenons un occidental et mettons-le dans cette situation, il la trouvera intolérable. Mais si on donnait un bol de riz par jour aux Français, ils trouveraient ça intolérable aussi. Quant aux Chinois, jusque-là, ils mangeaient les écorces. Il y a une tentative de Mao qui est l'une des tentatives psychologiques les plus considérables que l'humanité ait jamais tentées. Il veut véritablement faire ce qui a été dans certaines théories communistes mais qui n'a jamais été appliqué, parce que Staline a voulu faire une super discipline, il n'a pas voulu faire une super désindividualisation. Et d'autre part, l'anarchie au contraire aboutit à l'individu. Il y a donc là quelque chose d'absolument considérable. Est-ce que c'est universalisable? Ça, je vous dirais, répondez vous-même, c'est une réponse assez difficile. Je crois que j'ai raconté dans le livre, sinon peu importe, qu'un moment assez dramatique de la conversation avec Mao, je lui dis, voyons, vous qui étiez toujours un marxiste, vous savez aussi bien que moi à quel point le marxisme posait la nécessité de fonder la révolution sur le prolétariat combattant. Bon, vous avez connu Borodin qui acceptait encore complètement cette idéologie. Il aurait pu en accepter une autre, c'est entendu, mais c'était celle-là la sienne. Et quant aux adversaires trotskistes, ils avaient également l'idéologie que la révolution, c'est le prolétariat. Un jour, un garçon qui n'avait pas même 30 ans, qui jouait un rôle infime dans le parti, qui est vous-même, s'est mis à dire « la révolution ne sera pas prolétarienne, la révolution sera paysanne ». Ce jour-là, vous aviez tout le monde contre vous, et c'est à cause de ça que vous avez eu Staline contre vous pendant si longtemps. Est-ce une pure idéologie ou est-ce un événement? Qu'est-ce qui vous a amené à oser dire « nous refusons tout l'héritage marxiste traditionnel et nous allons fonder la révolution sur le combat paysan ». Et alors, il m'a répondu ceci. Quand j'ai quitté Shanghai au moment de la répression, chacun de nous a essayé de voir ce qu'il pouvait devenir. Certains sont allés à l'étranger. Pour moi, ce qui était le plus intelligent, c'était de rentrer dans mon village. Mon village était à 3000 kilomètres. Personne ne savait du tout quel avait été mon rôle dans le communisme à Shanghai. Il n'y avait aucun danger, c'était le plus raisonnable. Alors, je suis parti pour mon village et j'étais obligé d'arriver à pied. Quand je suis arrivé à 6 kilomètres, il n'y avait plus une écorce aux arbres jusqu'à 4 mètres d'eau. La situation était telle que les malheureux hommes étaient obligés de manger les écorces des arbres. Inutile de vous dire avec quelle dysenterie et quelle maladie, etc. etc. Bon, dans ces conditions-là, on pouvait obtenir de meilleurs résultats en donnant une pique à un paysan qu'en donnant une pique à un coulis qui, en définitive, avait toujours à Shanghai vécu infiniment mieux que n'importe quel paysan. L'anecdote symbole a un très grand poids, parce qu'elle répond à sa manière à votre question de tout à l'heure. Les gens qui mangeaient les écorces n'en demandent pas beaucoup, et de même qu'ils sont satisfaits du bol de riz, ils sont satisfaits de cette sorte de lien extrêmement profond qui peut s'établir entre eux, et sans individualité, tout à fait autrement, une certaine chaleur humaine que je ne peux pas définir, parce que nous n'en avons en Occident absolument aucune équivalence. Il faudrait rêver un petit peu à l'armée mythique, enfin ce qu'on racontait avec beaucoup de bourrage de crâne, de l'armée du début de la guerre de 14. Il est bien entendu que les hommes combattaient avec très, très peu d'individualisation, et que néanmoins la chaleur humaine qui les unissait était assez grande. Ce qu'on oublie toujours à tort, c'est que l'armée chinoise est en définitive une armée d'un très petit nombre d'hommes. Il y a 2 800 000 hommes. Or, s'ils faisaient une mobilisation à la nazie, il serait 80 millions. Lorsqu'on tente une commune populaire, si on la fait diriger par n'importe quelle deuxième classe, le deuxième classe en question est capable de la diriger. Donc, on peut concevoir quelque chose de tout à fait désindividualisé à la base, avec des masses colossales, et des cadres qui sont en partie les cadres politiques, les gardes rouges qui s'agitent, et puis l'armée, elle, est excessivement sérieuse qui encore.
En lisant le chapitre des anti-mémoires qui relate vos entretiens avec Mao et qui explique en effet toute la théorie du poisson dans l'eau et le prodigieux ralliement non seulement des paysans mais des soldats de Chiang Kai-shek à l'armée populaire, on croit d'ailleurs lire un chapitre de l'espoir. Enfin, c'est autre chose, mais c'est la même chose, c'est la fraternité. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que la fraternité, c'est beaucoup plus important que la liberté et que c'est beaucoup plus important que l'égalité?
Je ne sais pas si c'est plus important, ce dont je suis absolument sûr, c'est que c'est par la fraternité que passe la révolution. Ou bien c'est la révolution des avocats, comme disait Marx, et dans ce cas-là, c'est un ensemble de réformes ou de transformations, au mieux c'est le New Deal. Mais à partir du moment où la réalité révolutionnaire entre en jeu, sa matière première c'est la fraternité. Je ne conçois même pas une révolution sans fraternité.
Vous ne parlez pas de la famille chinoise à Mao. Or, est-ce que ça n'est pas la plus grande révolution de la Chine actuelle que d'avoir supprimé la famille?
Ce qui est le fait nouveau, c'est pas la disparition de la famille, c'est que la famille ne soit plus définie par les liens du sang. Ce qui, naturellement, est excessivement important, ou plutôt le serait si on gardait le culte des ancêtres. Et il a pu réussir l'opération parce qu'il a supprimé le culte des ancêtres, puisque avec les ancêtres, c'était les liens du sang, inévitablement. La Chine n'attache pas d'importance à ses morts. Enfin, la vieille phrase fameuse, il n'y avait plus de morts que de vivants. Aujourd'hui, c'est à peu près fini. Ensemble, on peut dire Mao a réussi à faire une nouvelle famille qui n'est pas la famille parce qu'il a réussi à faire que cette famille ne soit pas héritière de ses ancêtres.
Mais est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour dire qu'il a réussi? Je viens de parcourir une partie de l'Asie islamisée. Ce qui me frappe, c'est la résurrection de l'islam dans des pays où il avait été, je ne dirais pas déraciné comme en Turquie, mais enfin, où il était bien près de l'être.
L'islam est une religion.
Eh bien, est-ce que le culte des morts n'en est pas une autre?
Je ne crois pas. Vous avez tout à fait raison de mettre le culte des morts dans la religion, parce que les Français croient toujours qu'il n'y a de religion que des dieux. Or, il y a au moins des religions, des dieux et des morts. Le retour des morts à l'intérieur de la Chine ne changerait pas beaucoup le maoïsme. Je vois très bien une sorte de culte romain reparaissant et ne nuisant pas à ce qu'a tenté Mao. Maintenant, je pense, contre un très grand nombre d'excellents esprits, que c'est une erreur occidentale de supposer qu'à l'heure actuelle nous allons au retour des seigneurs de la guerre, que tout ça va finir par le plus grand désordre. Il est très vrai que Mao ne contrôle directement que cette province dans laquelle la révolution culturelle est pratiquement faite. Mais en définitive, c'est à mes yeux une erreur complète de croire que les autres joueront contre lui. L'homme qui a fait la longue marche est encore tout à fait intact. Et la grande puissance qu'il avait de partir de rien et de faire ce colosse qui s'appelle la Chine est encore là et il n'y aura pas le retour au seigneur de la guerre.
Il n'y aura ni Thermidor ni le 18 Brumaire.
Je ne crois pas du tout à Thermidor tout le temps que Mao sera là. C'est pas en définitive, que veut dire Thermidor? C'est la révolution ayant réussi. Attention qu'il y a tout de même 50 ans d'écart entre les deux révolutions. La révolution ayant réussi, on admet qu'un certain nombre de problèmes de niveau de vie vont devenir des problèmes capitaux et on admet que les biens de consommation courante vont être plus importants que les biens, en définitive, de défense nationale, car c'est de ça qu'il s'agit, ou de création d'une industrie lourde. Quoi qu'on en dise, la Chine est en train de créer son industrie lourde, n'est-ce pas ? Ils ont fait cette expérience comique qui est l'expérience des hauts fourneaux individuels, qui n'a donné aucune espèce de résultat, mais ils ont tout de même fait aussi les aciéries de Hanyang. Quand je suis allé là-bas la dernière fois, je partais avec les journaux occidentaux qui disaient que, avec les Russes, les aciéries s'étaient arrêtées. Je suis arrivé à Hanyang avec toutes les cheminées en train de fumer. Pour qu'il puisse y avoir un Thermidor il faudrait que Mao fût tué. Il n'y aura pas de Thermidor parce que les mesures qu'il prendra n'ont pas besoin d'être tellement brutales, mais néanmoins, n'oublions pas qu'elles deviennent de plus en plus brutales. Mao a employé des méthodes extrêmement brutales pour en finir avec les grands propriétaires terriens. Il n'a pas employé des méthodes extrêmement brutales, quoi qu'on en dise, au moment des sans-fleurs.
Est-ce que Mao peut garder cette prétention à l'immortalité qui est celle de tous les grands chefs révolutionnaires, car Nkrumah et Sukarno aussi se tenaient pour immortels?
On a le sentiment qu'il n'y a rien de commun. D'abord, il est en train, lui, de se désindividualiser d'une façon très curieuse. Vous avez remarqué que vous ne voyez plus un seul texte chinois depuis 3 ans, n'est-ce pas, sans qu'on vous parle essentiellement de la pensée de Mao Tse-tung. Dans les slogans, la pensée de Mao Tse-tung, le petit livre rouge, tout ça c'est de la désindividualisation. Avant, on disait Mao Tse-tung.
Donc il n'y a rien de commun avec le culte de la personnalité.
Bon, d'autre part, tout de même, si Sukarno avait fait la longue marche, ça se saurait.
Oui. Il a quand même chassé les occupants.
Ils sont partis. Mao est la plus grande figure historique de notre époque, dans le sens où l'histoire implique une accumulation de choses. Enfin, Mao, c'est le général de Gaulle qui serait Clémenceau. C'est Staline qui serait Lénine. Parce que tout commence avec lui. La révolution de 1911 n'avait pas fini par une révolution concrète, le moins du monde, c'est une révolution de juristes. Alors, il y a Sun Yat-sen quelque part dans l'Empire. Mais pour les Chinois, Sun Yat-sen n'avait pas changé les choses. Les choses ont commencé à changer avec Mao, et depuis, ça n'a pas cessé d'être lui. Alors, il a rencontré des obstacles véritablement incroyables. Il s'est battu contre une armée très puissante. Je crois que la biographie de Mao est une des biographies les plus extraordinaires du monde. D'ailleurs, vous savez qu'il le sait, il y a un des poèmes, n'est-ce pas, qui finit assez étrangement. Le Chinois permet l'ironie très visible. Il fait un grand poème assez beau sur les grands conquérants de jadis, n'est-ce pas, et son dernier vers est « Mais regardez donc autour de vous ».
Vous venez d'entendre le deuxième des 3 entretiens d'André Malraux avec Pierre de Boisdeffre. Assistante de réalisation, Michel Thierry.
Ces entretiens ont été diffusés pour la première fois les 25 et 28 septembre 1967.